Washington DC, Eric Manilakiza avec vous dans ce bulletin d'information sur VOA Afrique. Au Nigeria, les forces de sécurité reprenaient vendredi peu à peu le contrôle de Lagos, où l'on pouvait entendre encore des coups de feu sporadiques après 3 jours de violence et de contestations populaires dans le sud du Nigeria. Dans les quartiers populaires, la tension est également redescendue. La répression menée mardi à Lagos par des militaires et la police a fait au moins 12 morts selon Amnesty International, suivi de 2 jours de pillage et de violence. Même si des groupes de jeunes continuaient à bloquer des voitures en échange de quelques billets selon des témoins. Des quelques organisations ou célébrités qui ont porté le mouvement semblaient également appeler au calme. La coalition féministe a invité la jeunesse à rester chez soi, soulignant qu'une vie ne méritait d'être perdue. En Côte d'Ivoire, les affrontements intercommunautaires qui ont commencé lundi à Dabou, à l'ouest d'Abidjan, ont fait au moins 11 morts, selon un nouveau bilan donné vendredi par le maire de la ville à 8 jours de la présidentielle. La Guinée, en proie à de fortes tensions post-électorales, accusée vendredi de sérieuses perturbations d'Internet. Depuis des jours, les internautes s'attendent à des perturbations à l'instigation du pouvoir dont l'objet serait de contrôler la diffusion d'informations au moment de la publication de résultats qui risquent d'échauffer encore davantage les esprits. De telles perturbations ont déjà été rapportées jeudi soir. En RDC, le président Félix Tshisekedi a promis de s'adresser à la nation vendredi en pleine crise avec ses partenaires de la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Le président a assisté mercredi à la prestation de serment des 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle qu'il a nommés par ordonnance en juillet. La cérémonie s'est déroulée à l'absence des présidents de l'Assemblée et du Sénat, Jeanine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, du Premier ministre Sylvestre Ilunga et de même que les nombreux ministres et parlementaires pro-Kabila majoritaire. Les partis en conflit en Libye ont signé vendredi un cessez-le-feu national et permanent avec effet immédiat après 5 jours de discussions à Genève organisées sous l'égide de l'ONU qui a salué un tournant pour la paix. L'Union européenne a aussi salué comme une bonne nouvelle l'annonce et a appelé vendredi à sa mise en œuvre pour permettre la reprise des négociations de paix. En Algérie, l'émoi provoqué par de récents féminicides a incité un groupe d'actrices à lancer une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux contre des violences faites aux femmes, une initiative qui démarre sur fond de polémique. Le bilan de l'effondrement d'une église de 3 étages dans l'est du Ghana s'élève désormais à 21 morts, ont annoncé vendredi les services de secours qui ont découvert de nombreux corps dans les décombres. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden se sont opposés à propos de la pandémie de COVID-19, la guerre commerciale avec la Chine ou encore la question raciale aux États-Unis lors de leur dernier débat ultime avant les élections du 3 novembre. Les États-Unis ont sanctionné jeudi les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de Téhéran, ainsi que des médias iraniens pour tentative d'ingérence dans les élections américaines du 3 novembre, malgré les démentis outrés de l'Iran. Mercredi, le renseignement américain a aussi visé la Russie, estimant que Moscou et Téhéran avaient tenté d'influencer l'opinion publique en lien avec l'élection. Téhéran a annoncé des sanctions contre l'ambassadeur américain en Irak, Matthew Tura, accusé d'avoir commis des actes terroristes contre les intérêts iraniens, une réponse apparente aux sanctions américaines prononcées la veille contre l'ambassadeur iranien à Bagdad. L'armée américaine a annoncé jeudi avoir mené une frappe contre des responsables d'Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie, une opération qui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a fait 14 morts, dont 5 djihadistes étrangers et 6 commandants. La porte-parole américaine n'a pas précisé le nombre de morts. L'aviation israélienne a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi des positions du Hamas dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes vers Israël. Et c'est la fin de ce bulletin d'information.